morning edition from NPR News.
Let me teach you in the house.
Hey, I'm ready to go to Paris.
France Inter, le 18-20.
C'était en avril 2008, à 3 mois des JO d'été de Pékin, le passage de la flamme olympique à Paris tourne au fiasco. Le relais est interrompu par les manifestants. 40 députés scandent « Liberté pour le Tibet » avant d'entonner la Marseillaise. L'accueil est le même à Londres et San Francisco. Dans 3 mois, jour pour jour, Pékin accueillera à nouveau les Jeux et le monde est silencieux, alors que la Chine continue d'emprisonner opposants et journalistes et de réprimer les minorités. Alors, qu'est-ce qui a changé? Nous posons la question dans un instant. Le bruit du monde en Centrafrique, ravagé par la guerre civile. Reportage rare ce soir avec les familles paysannes, premières victimes de ce conflit. Le bruit du monde, la suite, sous les radars. Sébastien Logeni nous dira qu'aux États-Unis, vous pouvez payer pour assister à une autopsie. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Avec Angélique Bouin, on parlera reconnaissance faciale. Et puis 18h55, le monde d'après de Franck Madvon. Au Nicaragua, élection présidentielle dimanche. Comment la famille Ortega s'est arrangée pour être sûre de garder le pouvoir. Un jour dans le monde, c'est parti.
Jérôme Cadet. Un jour dans le monde.
Bonsoir Philippe Lecor.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en relations internationales, vous enseignez à la Harvard Kennedy School et à l'ESSEC Irénée, vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Dans 3 mois, la flamme olympique sera dans le Nid d'Oiseau, le célèbre stade de Pékin, coup d'envoi des JO d'hiver. La Chine reste la première prison du monde pour les journalistes, les minorités tibétaines, ouïghours, mongoles sont violemment réprimées, des centaines de milliers de personnes détenues dans des camps selon plusieurs ONG. Pourtant, je le rappelais à l'instant, on est très loin des protestations de 2008, seuls quelques pays comme le Royaume-Uni envisage un boycott et encore uniquement diplomatique. La Chine est devenue fréquentable, Philippe Lecor?
Ben vous savez, il faut se poser la question déjà des Jeux Olympiques de 2008 dont vous parliez. Hein. C'était la deuxième tentative puisqu'en l'an 2000, la Chine voulait déjà organiser les Jeux Olympiques, ne les avait pas eu. Et vous vous souvenez qu'en 2008, on avait dit bon, la Chine est devenue fréquentable, elle a rejoint l'Organisation Mondiale du Commerce, la Chine progresse, la Chine avance, la Chine est un partenaire, etc. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu les Jeux de 2008, mm-hmm. comme vous le disiez très justement, ils se sont bien passés au niveau organisationnel. Il y a eu ces incidents importants lors du passage de la flamme olympique dans différentes villes qui ont été évidemment très mal perçus en Chine et qui n'ont pas empêché les Jeux d'être un succès, disons en tout cas à l'intérieur de la Chine et même en termes d'organisation. Aujourd'hui, bon, vous avez les Jeux olympiques d'hiver, c'est évidemment moins important, moins symbolique peut-être.
La caisse de résonance n'est pas la même peut-être.
Voilà, donc vous avez eu quand même le passage de la flamme olympique à Athènes la semaine dernière, avec quand même quelques manifestations de militants pro-Tibet, mais il n'y a pas la même chose qu'en 2008, effectivement. Et puis, pour une raison très simple, c'est qu'il est impossible d'aller manifester en Chine et que finalement, il n'y a pas une flamme olympique de la même manière. Et aujourd'hui, effectivement, pour répondre à votre question sur un plan plus géopolitique, oui. D'une part, clairement, la France, c'est quand même la prochaine nation à organiser des Jeux olympiques après Pékin, c'est-à-dire 2024. Donc, on n'imagine pas le gouvernement français appelé au boycott. De même que le gouvernement américain ou le gouvernement britannique, qui sont pourtant dans une situation relativement conflictuelle avec la Chine, n'appellent pas et n'appelleront pas en tant qu'exécutif, je pense, à boycotter les Jeux. En revanche, vous aurez des actions des différents parlements. Le Congrès américain, vous savez, qui est vent debout contre ce qui se passe en Chine à de nombreux égards et considère que l'administration Biden n'est pas suffisamment défensive, même agressive vis-à-vis de la Chine. Et puis le Parlement européen qui est devenu un peu le porte-drapeau des droits de l'homme, etc., notamment en Chine. Ceci dit, bon, la Chine fait partie de la communauté internationale, elle est la puissance montante, voire la puissance existante. Certains disent que la Chine est déjà devenue une superpuissance. Et il y a tellement de dossiers, je dirais, du climat, aux tensions géopolitiques en mer de Chine, etc.
Le commerce.
Et le commerce et la technologie.
Il y a d'autres priorités que la question des droits de l'homme aujourd'hui dans les relations avec les Chinois. C'est ce que vous nous dites, Philippe Lecor.
Oui, ça a toujours été le cas, on peut dire. Hein. Ça n'a jamais empêché le reste du monde de fréquenter la Chine, d'autant plus que c'est l'atelier du monde. Donc, si vous voulez, par rapport à des difficultés d'acheminement, des provisions, des porte-containers, etc., dans différents différents points du monde, si les tensions s'accroissent encore davantage, ça risque d'avoir des conséquences pour ce qu'on mange, vous voyez, en Europe.
J'ai cherché des voix dissonantes, j'en ai trouvé une, elles sont assez rares parmi les athlètes, c'est celle du biathlète suédois Sebastian Samuelsson qui explique: j'ai perdu toute confiance dans le CIO depuis longtemps, on ne peut pas attribuer un tel événement à une dictature, je souhaite que nous restions à la maison, j'espère que mon pays, la Suède, boycottera ces jeux car la Chine ne respecte pas les valeurs olympiques. Pour l'instant, il est bien seul. Est-ce que un mouvement a la moindre chance de naître dans les trois prochains mois? Si je vous écoute bien, Philippe Lecor, pas forcément.
Bah, ça sera au niveau des ONG, ça sera au niveau des associations, des citoyens, de la presse. Vous savez que les journalistes étrangers se plaignent beaucoup en Chine de ne pas avoir accès et de potentiellement ne pas pouvoir avoir accès à certains événements, certains matchs, etc. et compétitions pendant les JO. Donc c'est compliqué, hein, de faire passer des messages. Bien entendu, on peut utiliser les médias sociaux. Ça risque d'être un petit peu contre-productif dans la mesure où la nation chinoise est quand même vent debout contre toutes ces attaques. Vous savez que le peuple chinois quand même soutient dans une grande mesure le parti et son leader, qui en plus est appelé à être renouvelé dans un an, etc. Donc je vois pas une...
Enfin, il le soutient, on n'a pas le résultat des urnes, il n'y a pas d'élection
de mieux.
Libre.
Certes, faute de mieux, je vous l'accorde, et ça ne va pas changer
de sitôt. 2008-2022, est-ce que cette évolution du rapport avec la Chine permet de mesurer aussi la nouvelle puissance chinoise qui a tissé sa toile encore plus en Afrique, qui a déroulé ses routes de la soie, ou qui est en train de le faire vers l'Europe?
Oui, il est clair que la Chine aujourd'hui...
Parce que beaucoup de pays ont désormais des liens tels avec la Chine qu'ils ne peuvent plus s'exprimer comme ils le faisaient auparavant.
Bien sûr, c'était déjà le cas, mais disons qu'il y a quelques années, on faisait un petit peu de la diplomatie. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous regardez les tensions qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, et même dans une certaine mesure entre l'Union européenne et la Chine, notamment sur les questions de droits de l'homme, vous savez que le traité sur les investissements sino-européens est aujourd'hui bloqué au Parlement parce que vous avez des députés européens qui sont sanctionnés par la Chine. Et donc, le Parlement européen a dit non, on ne votera pas pour ce texte. Donc, les jeux vont avoir lieu. Je pense pas qu'ils seront entravés de quelque manière. Par ailleurs, la vraie question, c'est celle du Covid, si vous voulez.
Alors précisément, il y a des cas, 19 cas de Covid à Pékin ces trois dernières semaines. Ça nous paraît extrêmement faible, hein, vu de France. Mais le pouvoir a tout de même appelé la population à stocker de la nourriture. Il y a des écoles qui sont fermées, des quarantaines décrétées. Pourquoi une réaction aussi vive? Est-ce que c'est précisément en raison des jeux qui arrivent, Philippe Lecor?
C'est une des raisons principales, mais vous avez également les échéances politiques, comme le plénum qui ouvre lundi du 8 au 11 novembre à Pékin.
C'est quoi le plénum?
Alors le plénum, si vous voulez, il y en a 6 par législature, par mandature de 5 ans, je dirais, et c'est le comité central qui se réunit.
Du parti,
qui est vraiment très très important parce que il va en gros préparer le congrès, le 20e congrès qui aura lieu dans un an. Et donc il va évidemment fixer les échéances, fixer les résolutions importantes. Il y aura sans doute une résolution historique qui va graver dans le marbre la pensée Xi Jinping, et puis également décider qui vont être les principaux dirigeants de la Chine, outre Xi Jinping, dont tout porte à croire qu'il sera renouvelé pour 5 ans comme secrétaire général, puis comme
troisième mandat.
Troisième mandat, voire plus. Ça, on ne sait pas, puisqu'il a changé, il a fait changer la constitution dans ce sens.
Pour revenir au Covid, est-ce qu'il y a le moindre doute sur l'organisation de ces Jeux, compte tenu du Covid aujourd'hui en Chine? C'est difficile, évidemment, de prévoir l'évolution de la pandémie.
Alors l'idée des autorités, c'est de faire une bulle pékinoise. Alors la bulle pékinoise, c'est très simple, c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais aujourd'hui vous avez plus d'un million de Chinois qui ont fait une demande en ligne pour pouvoir rentrer dans la municipalité de Pékin, qui fait à peu près 25 millions d'habitants, c'est quand même une très grande ville, pour pouvoir y travailler, pour pouvoir éventuellement aider comme bénévole les Jeux Olympiques d'hiver.
Sachant qu'il y a un site à Pékin, mais il y a aussi un site à 90 km au nord-ouest de Pékin, ça c'est pour le ski alpin. Il y en a un autre à 220 km de Pékin, là ce sont pour les épreuves de biathlon et de ski de fond.
Voilà, donc là ils ont prévu des laboratoires mobiles, notamment dans la province du Hebei, où il y aura, ils peuvent faire 400 000, 40 000 tests en une journée, et tous les gens dont je parlais seront testés et devront soit avoir été vaccinés, soit avoir été testés, sinon, d'ailleurs les athlètes également devront faire 21 jours de quarantaine.
La question, ceux qui ne sont pas vaccinés, oui,
c'est ça.
La question, c'est de savoir s'il y aura du public. Il y aura pas de public étranger, mais s'il y aura des Chinois dans les stades, la question n'est pas tranchée pour l'instant.
Alors, je pense qu'il y aura si vous voulez, si on se base sur l'exemple de Tokyo, évidemment, il y avait très peu de public, il y avait du public japonais, donc là, il y aura du public chinois, et il y aura une retransmission sur tous les écrans et sur tous les médias sociaux chinois, parce que c'est un événement, encore une fois, je parlais de la politique tout à l'heure, c'est un événement politique très important, enfin, lié à la politique, puisque le parti ne veut pas être pris en défaut d'organisation, et comme vous le savez, les événements internationaux ont beaucoup d'importance pour ce régime.
Alors précisément, vous parlez des Jeux à Tokyo, il n'y avait pas de public hein, à Tokyo dans les salles. Est-ce qu'il y a aussi cette comparaison-là? Les Japonais ont réussi à organiser des Jeux, ils sont nos grands rivaux, il faut que nous arrivions à organiser ces Jeux du mieux possible. Ça aussi, c'est un enjeu pour le pouvoir chinois?
Oui, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'ils y arrivent, parce que si vous voulez, en gros, enfin, vous souvenez peut-être de 2008, hein, tous les clochards et tous les gens qui faisaient face à la Chine avaient été mis à l'écart. Le ciel était bleu, il n'y avait pas de nuages et la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture étaient des exemples d'harmonie parfaite et de chorégraphie parfaite. Donc, je pense que on va avoir droit à ce genre de spectacle. Effectivement, la comparaison avec Tokyo, ça a été un peu laborieux, les JO de Tokyo, ils ont été décalés de 6 mois, d'un an, et donc aujourd'hui la Chine va s'évertuer à les organiser dans les temps, aux dates qui étaient prévues. Tout simplement parce que les JO d'hiver, en plus, on ne peut pas les décaler, à moins de les décaler d'un an, mais là, ça serait compliqué. Donc je pense qu'ils vont les faire. Il y aura des critiques des ONG sur les droits de l'homme, sur le Xinjiang, notamment, sur Hong Kong, sur le Tibet, sur tous ces sujets. Les représentations politiques, diplomatiques seront à minima, au niveau des secrétaire d'État, peut-être,
oui.
des ministres des Sports, pas plus haut. Et je ne pense pas qu'il y aura des chefs d'État. Vous vous souvenez qu'en 2008, il y avait eu tout un débat. Nicolas Sarkozy avait dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Enfin, les Chinois n'aiment pas beaucoup ce genre d'hésitation. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les tensions sont tellement importantes au niveau géopolitique. Il y a peu de chefs d'État, en plus, bon, le Covid ne s'y prête pas, qui vont faire le voyage de Pékin.
On s'est étonné au moment de la désignation de Pékin. Alors, d'abord, parce que les valeurs du CIO paraissent peu compatibles avec l'état du respect des droits de l'homme en Chine, mais aussi parce qu'on sait peu que la Chine est un pays extrêmement montagneux et que les sports d'hiver sont un pari, un investissement très fort du régime politique.
Oui, alors effectivement, mais si vous voulez, encore une fois, ce régime a le don d'inciter les gens à faire ce qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les JO d'hiver ont été attribués à la Chine, tout d'un coup, les stations de sport d'hiver un petit peu se sont mises à sortir de terre, et vous savez aussi que le Club Med.
Quand vous dites les stations de ski, oui. On compte par dizaines, on compte par centaines.
Par centaines.
Par centaines,
oui.
De stations.
Absolument, et vous savez que le Club Med a été racheté par le groupe Fosun, qui est un groupe de
fonds d'investissement chinois.
Voilà, absolument. Et donc, il y a notamment une dizaine de Club Med aujourd'hui. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi des stations chinoises.
Donc, l'un des enjeux, c'est de populariser cette pratique en Chine?
Ah oui, bah c'est déjà le cas, enfin, pour ceux qui peuvent se le permettre. Parce que forcément, si vous êtes au sud de la Chine, la météo ne s'y prête pas. Mais on peut dire que les sports d'hiver sont devenus une mode en Chine.
Avec des infrastructures nouvelles qui ont été réalisées, des trains à grande vitesse, par exemple, pour rallier ces régions.
Absolument, oui, tout à fait. Il y aura des transports organisés. Au niveau logistique, si vous voulez, ça sera parfait.
L'industrie du sport, c'est aussi un enjeu pour la Chine de croissance important.
Oui, alors effectivement, si vous voulez, on parle des problèmes de livraison, etc., d'acheminement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de la Chine est l'atelier du monde, donc vous avez quand même un certain nombre d'outils de matériel de sport qui sont fabriqués en Chine, qui sont ensuite envoyés dans le reste du monde, puis renvoyés en Chine. Donc jusqu'ici, en tout cas avant le Covid, puisque le Covid, oui, a remis en jeu un certain nombre de choses, la Chine était le principal fournisseur des chaussures de sport, des raquettes. raquettes de tennis et des skis. Donc c'est vrai que c'est un enjeu, et peut-être d'ailleurs lié à ce que vous me demandiez tout à l'heure sur les possibilités de boycott. Il y a un enjeu économique pour des entreprises dont on sait que si elles s'opposent au régime chinois pour les raisons de droits de l'homme, d'ailleurs Nike, pour ne pas la citer, avait eu un problème à un moment. Les enjeux commerciaux au niveau des consommateurs chinois sont quand même très, très importants dans ce pays.
Et donc beaucoup hésitent évidemment avant d'engager le bras de fer. Merci Philippe Lecor pour cet éclairage ce soir sur France Inter. Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales. Merci à vous.
Le 18-20, Jérôme Cadet sur France Inter.
Le bruit du monde en Centrafrique ce soir, dans quelques minutes, avec les paysans victimes indirectes de la guerre civile. Ce sont des paroles rares que vous allez entendre, car les zones du conflit sont évidemment difficiles d'accès. Pour aller jusqu'à 19h, le bruit du monde, la suite sous les radars avec vous Sébastien Legénie.
Une autopsie payante fait polémique aux États-Unis. 70 spectateurs y ont assisté pour la somme de $500.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec vous Angélique Bouin, bonsoir.
Bonsoir à tous. Facebook renonce à son système de reconnaissance faciale à Bruxelles, où l'on négocie en ce moment même une législation sur ce sujet. L'annonce n'est pas passée inaperçue.
Et puis ce sera le monde d'après avec Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Jérôme. Une farce électorale ce dimanche au Nicaragua. Le dictateur Ortega a écarté toute opposition.
Et vous nous en parlerez juste avant 19h. Avant cela, il vient du Colorado. Il se prend pour un boxeur. Nathaniel Ratliff, Survivor. Well, you just think that I'm some great survivor, and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we crawl to find our way, we even take the shape of something else.
Thank you.
Nous sommes en Centrafrique, deuxième pays le plus pauvre au monde, pays déchiré par une guerre civile entre le pouvoir du président Touadéra et les rebelles. En janvier, ils étaient aux portes de la capitale. Depuis, le soutien de la Russie et du Rwanda a permis à l'armée de reprendre les principales villes du pays. Le président a décrété un cessez-le-feu il y a 3 semaines. Mais la situation des habitants, notamment dans les campagnes, reste précaire. Notre correspondant sur place, Carole Valade, a pu y accéder. Son reportage.
Aujourd'hui, nous allons effectuer une patrouille de reconnaissance sur l'axe Bangasso-Rafai. Distance entre les groupes, 50 mètres. Vitesse de progression, 20 km à l'heure. Embarquez.
Mettez-vous en position.
Bangassou, c'est le verrou stratégique pour contrôler le sud-est de la Centrafrique et la voie vers le Soudan. Cette mission revient au contingent marocain de la MINUSCA, commandé par le colonel Amaroui.
La situation est calme pour le moment, mais elle reste imprévisible à cause de la présence des groupes armés dispersés dans la forêt et plus particulièrement celui de l'EPC qui s'active dans la zone de Zimio.
Repoussés hors des villes par les forces alliées, les rebelles profitent de l'épaisse végétation pour tendre des embuscades. Deux casques bleus y ont déjà laissé leur vie. Le danger peut venir de n'importe où et frappe aussi bien les humanitaires qui tentent d'apporter de l'aide aux plus démunis. Pour rejoindre le village de Niakari, il faut emprunter un bac mécanique et en piteux état. Seydou Kane, coordinateur terrain de l'ONG Oxfam.
Comme vous voyez, les moyens sont rudimentaires, donc ça peut lâcher à tout moment. Donc ce qui fait que c'est de gros risques qu'on prend. Mais s'il n'y a pas assez d'incidents, on continue. L'accès était impossible. De mi-décembre jusqu'au presque mars, il n'y a pas de mouvement sur les axes, il n'y a pas d'accès humanitaire, tout est fermé. Ça a créé vraiment une crise économique terrible. Parce que quand les CPC viennent, c'est qu'ils raflent tout.
À Niakari, la vie reprend ses droits depuis la fin de l'occupation rebelle.
C'est une précision. Il y a beaucoup de monde, hein, le marché est très, très dynamique.
Oui, oui. C'était pas comme ça à l'époque.
C'était comment ?
C'était difficile parce qu'au moment que vraiment les groupes rebelles sont là, ils sont tous fuis, exilés vraiment dans la brousse.
Giscard Bomo, responsable de la jeunesse de Niakari.
Lorsqu'ils sont rentrés dans la mairie là-bas, ils ont pris les souches de l'acte de naissance des enfants à les fumer avec leur tabac. Ils ont pris tous les fiches, même les documents de la mairie. L'école, saccagée, les bancs des élèves, ils ont tous détruit ça. Les élèves à l'école, vraiment, ils ont leurs pieds pour étudier. Et à des humanités.
Ils ont leurs pieds pour étudier, ça veut dire qu'ils ça étudient
qu'ils sont
debout.
Dans le petit centre de santé tenu par Christian Bagoussi, une douzaine de femmes accouchent en moyenne chaque mois sur une planche de bois.
Au moment que les CPC ont rentré dans notre commune, nous avions quitté brusquement comme ça. Lorsque nous avions retourné, il n'y a rien. Même pas un thermomètre, même pas une matelas, même pas un haricot. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Un peu à l'écart de la foule, nous rencontrons une jeune femme qui demande à rester anonyme. La tasse de café entre ses mains tremble légèrement.
Je viens de Zemio. Lorsque les rebelles sont arrivés, j'étais en train de faire la lessive. Nous avons pris la fuite avec mon mari et nos enfants. Ils ont tiré, mon mari est mort. Ensuite, ils nous ont rattrapés et ils ont pris mon fils de 4 ans. Ils l'ont égorgé, j'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillée, nous avons repris la route et j'ai marché pendant 2 mois pour venir jusqu'ici.
Elle a trouvé refuge dans une famille de Bangassou, car malgré ses tourments, la ville n'a pas oublié l'hospitalité. Lui-même réfugié à plusieurs reprises, Honoré Picot a choisi d'accueillir une famille d'éleveurs peuls, vêtus de haillons, le regard criant de misère.
Au début, il y avait la piscose et les gens s'inquiétaient de leur arrivée. On a fait une réunion avec la population et ils ont dit à la population qu'ils sont pourchassés par les groupes rebelles pour venir se réfugier, c'est pour être calme avec leur famille en tout cas. C'est pourquoi on les a accueillis et on vit ensemble avec eux.
Je m'appelle Moussa Abdou. J'habitais vers Zemio, mais quand les rebelles sont arrivés, ils ont pillé notre bétail. Et comme on n'avait pas de médicaments pour soigner les bêtes, tout le troupeau est perdu. Les gens d'ici nous ont très bien accueillis. Ils sont vulnérables, comme nous. Ils n'ont rien à nous donner, mais on est ensemble quand même.
Tandis que le jour décline, accentuant démesurément l'orangé de la terre, il prélève pour le repas quelques feuilles de manioc sur une tige frêle. La famille retrouve un peu de quiétude, mais jusqu'à quand, s'interroge Séraphin Batouka.
Pour le moment, nous sommes bien.
Pour le moment.
Pour le moment, il n'y a rien. Pendant la saison humide, nous sommes protégés un peu par nos herbes, par nos arbres aussi. Mais pendant la saison sèche, là, bon, on doit avoir un peu de l'inquiétude. Hein. Vous voyez que si la saison sèche, on brûle les herbes là, ça fait l'avancée de ces gens-là. Hein. Le plus souvent, c'est comme ça.
À Bangassou, fuir, c'est comme une habitude. En perpétuelle instance de départ, on s'en remet à Dieu. Et s'il faut de nouveau tout abandonner, ce ne sera qu'un nouvel épisode d'une éternelle errance.
Reportage Carole Valade pour Un jour dans le monde en Centrafrique. Ce soir, nous partons sous les radars avec Sébastien Legénie. Nous en parlions il y a quelques minutes, la Chine, nous y sommes, secouée par un scandale sexuel au plus haut niveau de l'État, Sébastien.
C'est un peu comme si le mouvement MeToo finissait par atteindre les dirigeants communistes chinois les plus puissants. L'histoire est donc la suivante. Mardi soir, l'une des plus grandes joueuses chinoises de tennis, Peng Shuai, âgée aujourd'hui de 35 ans, ancienne vainqueur de double à Roland-Garros, publie un post sur le Twitter chinois Weibo où elle révèle sa relation avec Zhang Gaoli, 40 ans de plus qu'elle. Zhang Gaoli a été ces dernières années l'un des 7 hommes politiques les plus influents de Chine, membre du Politburo, ex-vice-premier ministre, désormais à la retraite. Peng Shuai a été sa maîtresse, mais surtout le raconte dans un témoignage bouleversant le viol dont elle affirme avoir été victime il y a 3 ans avec la complicité de l'épouse du dirigeant. Elle conclut avec ces mots « Je n'ai aucune preuve, mais je vais dire à haute voix la vérité, tu vas sûrement tout nier et tout retourner contre moi ». Le compte de la joueuse aurait été lu près de 100 000 fois, mais la gigantesque machine de censure chinoise s'est rapidement mise en marche. Toute référence à Peng Shuai, tous les messages contenant le mot ou l'émoji tennis sont bloqués depuis mardi soir en Chine. Seule possibilité de suivre l'affaire, se brancher sur les chaînes de télé satellites de Taïwan. L'affaire qui fait la une, notamment d'ABC News, il faut dire que c'est une affaire explosive pour le régime de Pékin. MeToo n'avait jusqu'ici touché que de rares artistes ou hommes d'affaires chinois. C'est la première fois qu'un haut dirigeant, un très haut dirigeant du Parti communiste est visé.
En Nouvelle-Zélande, les chefs de gang fument le calumet de la paix, si je puis dire, pour lutter ensemble contre un ennemi commun.
Ils s'appellent les Black Power, les King Cobras, les Headhunters. Il ne s'agit pas là, Jérôme, d'équipes de rugby, mais des noms des plus célèbres gangs de rue néo-zélandais. La Nouvelle-Zélande, pays du ballon rond, mais connue aussi, on le sait moins, pour ses bandes criminelles, donc parmi les plus anciennes et les plus violentes du Pacifique. Mais il y a 2 jours, c'est du jamais vu, ces gangs ont publié une vidéo commune où ils appellent leurs membres et surtout leur communauté à se faire vacciner. Quand la mafia fait la paix pour combattre le Covid-19, voilà ce que ça donne. Ce membre des Black Power, par exemple, raconte qu'il a été victime, dit-il, de quelques tirs dans sa vie, quelques shots en anglais, mais il a pris aussi ses 2 shots de vaccin, ses 2 piqûres, c'est aussi en anglais, et demande à tout le monde de faire de même. Ils sont 7, comme lui, 7 chefs de gang, tout aussi patibulaires les uns que les autres, à lancer cet appel vidéo. Une vidéo à la demande du gouvernement néo-zélandais lui-même, car le variant Delta est en train de gagner du terrain dans ce pays jusqu'ici plutôt épargné. Surtout, les communautés les plus touchées, les moins vaccinées, sont les populations autochtones les plus pauvres, les Maoris, où les gangs ont encore aujourd'hui un important pouvoir d'influence.
Je suis pas sûr qu'il faille importer la méthode. Direction les États-Unis pour finir une autopsie, crée la polémique.
Oui, une autopsie qui a eu lieu la semaine dernière à Portland, au nord-ouest du pays, à la frontière avec le Canada. On aurait pu imaginer qu'elle se soit déroulée dans un hôpital, une morgue ou une école de médecine, comme c'est normalement la tradition, mais non. Je vais vous parler là d'une autopsie dans la salle de bal d'un grand hôtel de Portland, en public. 70 personnes y ont assisté. 70 spectateurs, pourrait-on dire, qui ont payé $500 de leur poche pour réserver leur place et pour avoir le droit, comme le prévoyait le programme de l'événement, de toucher le cadavre avant, pendant et après la dissection. Sauf qu'il semble que la famille du défunt David Saunders, un vétéran de la Deuxième Guerre, n'a jamais été mise au courant qu'on ferait un tel usage de son corps. On attend là le directeur des services funéraires qui s'est occupé de la dépouille de David Saunders à sa mort. Je suis vraiment atterré, dit dit-il, qu'on ait fait subir à son corps autre chose que ce qu'il pensait. David Saunders et sa famille s'étaient mis d'accord, en effet, pour léguer son corps à la science et pour qu'il soit examiné par des étudiants, mais jamais ils n'ont été informés qu'il pourrait finir dans un hôtel comme un vulgaire bout de viande, a dit sa femme, à la merci de la curiosité du premier venu.
Je suis pas sûr de devoir vous remercier, Sébastien Legenis, je le fais quand même. Merci à vous. Dans un instant, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec Angélique Bouin. Avant cela, la très belle voix de la chanteuse américano-camerounaise Vagabonde, Reason to Believe.
If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. If I give you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lie straight face while I cry, still I look to find a reason to believe.
Vagabonde sur Inter à 18h50.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
European Union.
Général.
Un jour dans le monde.
Angélique Bouin, vous êtes en direct de Bruxelles. Facebook renonce à utiliser une bonne partie de ses logiciels de reconnaissance faciale dans l'attente d'un cadre réglementaire plus clair. Précisément à Bruxelles, on négocie en ce moment une législation sur le sujet et cette annonce ne passe pas inaperçue.
Oui, ce n'est pas tous les jours que l'un des géants américains du numérique envoie un tel signal. Sur son blog, le vice-président de Facebook, Jérôme Pesanti, écrit ceci. Nous avons besoin de faire la balance entre les usages positifs de la reconnaissance faciale et les inquiétudes croissantes de la société, alors que les législateurs doivent encore fournir des règles claires. Facebook annonce donc qu'il va supprimer dans quelques semaines la technologie qui permet depuis 2010 d'identifier des personnes présentes sur des photos que vous postez sur le réseau social, ainsi que les données d'identification numérique accumulées sur plus d'un milliard d'utilisateurs. Alors évidemment, c'est une décision saluée ici, décision notable, dit une source européenne haut placée, tout en ajoutant tout de même qu'il ne faut pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt, car c'est aussi sur la transparence des algorithmes ou encore la gestion des données que les GAFAM sont dans le collimateur des Européens. Et puis cette annonce, ne soyons pas naïfs, c'est aussi une façon de tenter d'éteindre le feu, estiment plusieurs experts, alors que Facebook fait face en ce moment à une pluie de critiques après la fuite de documents internes exfiltrés par la lanceuse d'alerte française Hogan, des documents qui prouvent que le réseau social fait passer ses profits avant la sécurité des utilisateurs. Frances Hogan, qui sera d'ailleurs reçue lundi prochain à Bruxelles, à la Commission, et par les eurodéputés au Parlement.
Alors, Facebook dit vouloir un débat public et un cadre clair sur ses futurs usages de la reconnaissance faciale. C'est un message qui s'adresse directement aux Européens ?
Oui, ce qui est intéressant à souligner, c'est que les GAFAM ont bien compris que le Far West dans le domaine de l'Internet, c'est peut-être bientôt fini, que les normes qui sont en discussion ici à Bruxelles pourraient bien changer en partie leur vie. Les GAFAM s'intéressent de très près aux négociations en cours, car ils savent que c'est une source d'inspiration pour les futurs cadres réglementaires aux États-Unis, m'a confirmé Louis-Marie Durand. Il travaille au cabinet Euralie, un cabinet de conseil en affaires publiques qui suit de très près le numérique. Ils savent, explique ce lobbyiste, que les grandes orientations prises à Bruxelles infusent ensuite dans le reste du monde. Aujourd'hui, les GAFAM ont une liberté quasi totale, mais ils savent en fait qu'ils seront bientôt plus contraints, que c'est le début de la fin, en quelque sorte, de cette période d'absence de cadre. Et puis sur la reconnaissance faciale, eh bien, il faut rappeler que la Commission a justement fait une proposition de réglementation en avril dernier. Le texte négocié en ce moment passe entre les parlementaires, les mains des parlementaires et des représentants des 27 États.
Alors, qu'y a-t-il dans ce texte, Angélique ?
Eh bien, la Commission, qui avait un temps envisagé d'interdire cette technologie, ne le fait pas. Elle veut strictement encadrer la reconnaissance faciale pour éviter, par exemple, la surveillance de masse, l'utiliser pour débloquer son smartphone ou passer le contrôle de sécurité pour accéder à son avion, oui. Mais pas question que ça serve, par exemple, à identifier un citoyen qui traverserait au rouge à un feu comme en Chine. Les systèmes qui utilisent de l'intelligence artificielle seront encadrés selon leur niveau de dangerosité et avant de proposer à leurs utilisateurs de nouvelles fonctionnalités, eh bien les plateformes comme Facebook devront fournir des garanties de transparence. L'idée des Européens, c'est pas de brider l'innovation, mais d'imposer des valeurs de respect de la vie privée à ces géants du numérique. On rappelle qu'en 2018, l'Europe, avec son règlement général sur la protection des données, le RGPD, avait proposé une référence mondiale. Elle entend faire de même avec ses futures législations sur le numérique. Alors, va-t-elle y arriver ? Eh bien, on n'a pas la réponse. Il ne faut pas être naïf, les GAFAM ne vont pas se plier facilement à ce que les Européens veulent leur imposer, mais en tout cas, ils ont le nez tourné vers Bruxelles.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, chaque jeudi sur Inter, dans Un jour dans le monde, avec Angélique Bouin.
Jérôme Cadet, le 18-20.
Dimanche, la présidentielle au Nicaragua. On sait déjà que Daniel Ortega va obtenir un quatrième mandat. Il a éliminé toute opposition. Lui et sa femme dirigent ce petit pays d'Amérique latine d'une main de fer. Mais la communauté internationale est de plus en plus mobilisée et les opposants ne perdent pas espoir. C'est votre monde d'après, Franck Madvon.
La particularité du Nicaragua, c'est en effet qu'il n'y a pas un seul tyran à la tête de l'État, mais deux, Daniel Ortega et sa femme, Rosario Murillo, les deux visages de la dictature. Lui est président, elle vice-présidente. C'est ce ticket que les Nicaraguayens sont appelés à réélire dimanche. Cinq autres candidats sont autorisés à concourir, mais ils représentent des petits partis de droite qui n'ont aucune chance face à l'omnipotent Ortega. Le régime s'est facilité la tâche. Il a arrêté, c'est vrai, tous les opposants. Une quarantaine de figures importantes, dont sept candidat potentiel à la présidentielle. Parmi eux, Cristiana Chamorro, a priori l'adversaire la plus crédible du dictateur. C'est la fille de l'ancienne présidente Violeta Chamorro, au pouvoir dans les années 90. Elle fut la première personne arrêtée. Elle est assignée à résidence depuis le mois de juin. D'autres ont donc subi après elle les foudres du couple présidentiel. Beaucoup sont détenus dans les geôles de la sinistre prison d'El Chipote à Managua. Ils ont droit à de très rares visites, vivent dans des cellules glaciales, avec la lumière allumée en permanence, un simple trou pour faire ses besoins et des interrogatoires quotidiens. Daniel Ortega qualifie ses prisonniers de terroristes et d'agents de l'impérialisme yankee.
Oui, car Ortega déteste les États-Unis et réciproquement, et cela remonte à plusieurs décennies.
Oui, il faut rappeler le parcours d'Ortega et de son épouse, tous deux septuagénaires aujourd'hui. Le despote moustachu est un ancien héros de la révolution sandiniste. Admirateur du Che, il a mené l'insurrection qui a fait tomber en 79, la dictature de Somoza, soutenue par Washington. Il dirige le pays alors jusqu'en 90, puis il est battu dans les urnes, mais n'aspire qu'à une chose, retrouver son fauteuil. Il est enfin réélu en 2006 et c'est le début d'une lente dérive vers l'autocratie. Il renonce à ses idéaux marxistes, applique les recommandations du FMI, puis dessine peu à peu un État à sa main. Il place ses hommes, souvent même ses propres enfants, au poste clé et parvient à tordre les règles pour briguer d'autres mandats. Mais on l'a dit, ils sont deux à piloter ce régime. Pour beaucoup d'experts, la vraie patronne du Nicaragua, c'est Madame Rosario Murillo, une poétesse excentrique, omniprésente dans les médias et implacable avec ses opposants. En 2018, le peuple se soulève, il ne supporte plus ce couple qui a pris goût au pouvoir et s'enrichit sur son dos. La répression sera féroce, plus de 300 morts. Depuis, toutes les voix dissidentes sont donc muselées. Des dizaines d'étudiants, de militants, d'hommes d'affaires sont détenus. La liberté de la presse a disparu. Et tous les moyens sont bons pour manipuler l'opinion. Lundi, par exemple, la maison mère de Facebook a révélé qu'une usine à trolls du gouvernement du Nicaragua inondait les réseaux sociaux de fausses informations pour vanter les mérites du régime. Des centaines de comptes ont été supprimés.
Et on en a parlé ici même avec Sébastien Logénie. Alors que fait, Franck, la communauté internationale face à ces dérives?
Elle est longtemps restée assez inerte, mais la pression diplomatique sur le Nicaragua s'accentue. D'abord, il y a les mots. Les États-Unis, l'Europe, la plupart des voisins d'Amérique latine condamnent à l'avance des élections truquées. Même l'ancien ami, le président Lula, appelle Ortega à ne pas abandonner la démocratie. Washington s'inquiète en particulier de l'influence de la Russie au Nicaragua. Moscou vend des armes au pays et soutient le régime. Les États-Unis s'activent. Le Congrès américain a approuvé hier une loi très attendue par les opposants contre la corruption et les violations des droits de l'homme au Nicaragua. Une série de sanctions individuelles et de nouvelles restrictions de visa ont ainsi été adoptées. Les anti-Ortega s'appuient aussi sur la diaspora. Depuis la répression de 2018, ils sont des dizaines de milliers à avoir fui le pays. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés au Costa Rica, le voisin du Sud. Ces opposants sont souvent d'anciens sandinistes qui ont bien connu le Daniel Ortega, héros de la révolution, et voit aujourd'hui en lui un escroc et un assassin. Ce dimanche, à San José, au Costa Rica, ils organisent une grande manifestation pour dénoncer la farce électorale au Nicaragua. Le mouvement anti-Ortega de 2018 respire encore.
Franck Madvon pour Le Monde d'après, merci à vous. Le 18-20 est à mi-parcours. Dans un instant, c'est le journal de 19h présenté par Claire Chaudière. Et puis juste après, le téléphone sonne. Merci de passer cette soirée avec nous. À tout de suite.